bonsoir. Soyez les bienvenus pour la conférence organisée par le groupe d'études théosophiques en parenthèse. Le thème que nous allons approfondir ce soir est « Comment opère karma ?». Alors, pour introduire la conférence de ce soir qui traite de karma, nous allons faire une lecture tirée des « Échos de l'Orient » qui est un ouvrage écrit par William Crane Judge. De très nombreux occidentaux disent que cette doctrine orientale du karma est difficile à comprendre et n'est à la portée que des gens instruits et réfléchis. Mais en Inde, dans l'île de Ceylan, en Birmanie, sans mentionner d'autres pays asiatiques, toutes les masses populaires l'acceptent et semblent la comprendre. La raison en est due probablement au fait que ces hommes croient fermement aussi à la réincarnation qu'on peut appeler la doctrine jumelle de karma. Effectivement, l'une ne peut être abordée convenablement sans tenir compte de l'autre, car karma, qu'on l'envisage comme punition ou récompense, ne pourrait avoir aucune action juste et réelle sur l'ego si la réincarnation ne lui fournissait les moyens d'opérer. Tout ce que nous avons mérité nous est alloué pendant que nous sommes associés avec nos semblables dans cette vie, et non alors que nous sommes seuls ou à l'écart des autres. C'est ainsi que la loi de la réincarnation nous renvoie sur Terre, vie après vie, en ramenant avec nous d'innombrables fois les divers égos que nous avons connus dans des existences passées. Cela afin que le karma ou l'ensemble des causes générées en compagnie de ces égos puissent s'épuiser, car ce serait une chose aussi impossible qu'injuste de nous jeter séparément dans un enfer inconnu, pour y recevoir un genre quelconque de punition ou de nous élever dans un incroyable ciel d'opérette pour y trouver notre récompense. Par suite, aucun meurtrier ne peut échapper aux conséquences de son acte, même s'il a reçu l'absolution d'un prêtre pour avoir loué Jésus avant de mourir. Il devra revenir sur terre en compagnie de sa victime, chacun pour aider l'autre à rétablir l'harmonie rompue. Ce processus amenant chacun à faire les justes compensations nécessaires. Avec cette doctrine, nous rétablissons ainsi la justice à la place qui lui revient. Place maintenant à la conférence.
Alors amis, bonsoir. Donc, ce soir, nous allons parler de karma. Et karma, eh bien, c'est devenu un terme qui est assez familier maintenant en Occident. Mais les Occidentaux, par contre, imaginent que karma ne s'adresse uniquement à l'homme, et puis ils voient en karma une punition quand ils ont mal agi, ou une récompense dans le cas contraire. Donc karma est un peu confondu avec le destin. Et il y a une certaine fatalité dans cette vue de karma. Et le mot karma lui-même, eh bien, a été largement répandu au XIXe siècle. Il a été largement répandu en Occident par Madame Blavatsky, donc, et la théosophie. Et il a été répandu parce que justement, il n'y a pas de traduction du mot karma en langue occidentale. Karma n'est ni le destin ni la fatalité. Alors, qu'est-ce que karma ? Eh bien, pour la théosophie, karma, c'est la plus importante des lois de la nature. C'est la base, en fait, de toutes les autres lois de la nature. Et ce n'est pas une loi qui est dictée par un dieu personnel qui va nous punir ou nous récompenser. Mais avant d'aller plus loin, on va déjà rappeler quelques notions théosophiques qui sont importantes pour mieux comprendre la suite. Et déjà, la théosophie, on l'aura compris, ne postule pas un dieu personnel, mais postule une source unique et absolue de conscience, matière, énergie, et d'où émanent en fait de façon cyclique les univers, et cela dans l'éternité du temps. Et la théosophie, eh bien, postule aussi un immense processus d'évolution physique, psychique et spirituelle, avec une montée progressive de la conscience Et ça, des formes les plus primitives jusqu'au stade humain et même encore bien au-delà du stade humain. Alors, pour la théosophie, eh bien, l'homme possède une âme profonde qui est en fait un rayon individualisé de cette grande source de conscience. Cette âme profonde, on peut l'appeler aussi le pèlerin éternel, qui est appelé en fait à un éveil spirituel au prix de ses propres efforts et cela au fil de nombreuses incarnations. Pour expliquer un petit peu les choses, on va faire une comparaison avec un acteur qui endosse des costumes différents, qui va jouer des rôles différents et qui, quand il quitte son costume, c'est toujours le même acteur. Eh bien, ce pèlerin éternel, il va endosser différents corps, différentes personnalités, et à la mort de ce corps, de cette personnalité, ce sera toujours le même pèlerin éternel au fil des incarnations. Alors, pour la théosophie, il y a aussi une chose importante, elle insiste sur l'unité des mondes et l'unité du monde dont les humains font partie. Et donc, cet univers, ce monde, sont soumis à des lois de la nature et qui en maintiennent en fait l'harmonie dynamique. Eh bien, c'est ces lois dont on va parler ce soir, et plus particulièrement donc de la loi de karma, qui, rappelons-le, est l'origine de toutes les autres lois de la nature. Alors, on a vu que le fondement même de l'univers, c'était l'unité. Eh bien, la loi de karma, c'est cette loi infaillible qui va toujours ramener l'harmonie de l'unité quand celle-ci a été perturbée. Et en effet, quand quelque chose vient perturber l'harmonie du monde, c'est-à-dire l'unité, eh bien, la tendance est de revenir à l'état initial. Un petit peu, on peut prendre l'exemple d'une branche qu'on va plier et quand on va lâcher la branche, eh bien, elle va revenir à sa position naturelle, à son état initial. Et si on est sur sa trajectoire, eh bien, elle nous blessera aussi. On peut aussi prendre l'exemple d'un caillou qu'on jette dans une mare. Et à partir de ce centre où le caillou a été jeté, il va y avoir des vaguelettes qui vont aller jusqu'au bord de la mare et puis qui vont revenir vers le centre perturbateur. Et cela jusqu'à ce que ça se calme. Eh bien, karma agit ainsi aussi. Et qu'est-ce qui va venir perturber l'harmonie du monde, son unité? Eh bien, c'est justement le contraire de l'unité, c'est ce qui sépare. Et qu'est-ce qui sépare? Eh bien, c'est l'égoïsme sous toutes ses formes. C'est ça qui va venir perturber l'harmonie du monde. Alors, karma veut dire action. C'est-à-dire qu'une action, eh bien, va créer des effets tout autour et ces effets vont revenir ensuite vers la personne qui a fait l'action. Eh bien, karma est donc un enchaînement de causes ainsi et d'effets. Mais rappelons que les effets ne sont dictés par personne. En fait, l'effet ne suit pas la cause. L'effet est déjà contenu dans la cause. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, c'est pour cela que karma n'est pas une loi seulement extérieure, mais aussi une loi intérieure à l'homme. Et chaque action contient déjà le futur, en fait. Et il faut savoir que chaque action a à sa base une pensée. Donc, eh bien, karma, ça va être l'équité absolue pour tous les êtres, basé sur l'harmonie universelle, parce que ce sera chaque pensée et chaque action qui vont réellement guider la loi de karma. Karma ne va seulement mettre à la lumière que ce qui existe déjà. c'est déjà, le futur est déjà dans l'action, quand l'action est faite. Mais avec karma, eh bien, on va aussi élargir le débat. Parce qu'on a vu que tout émanait d'une même source unique. Et cette unité même, eh bien, implique que tout est soumis aux mêmes lois de la nature. C'est-à-dire que karma va agir du plus petit atome jusqu'aux univers et au cosmos. Dès qu'il y a forme, que ce soit les formes les plus matérielles jusqu'aux formes les plus éthérées, les plus spirituelles, du microcosme au macrocosme, il y a action de karma pour tout. Et karma aussi agit indépendamment sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan physique, sur le plan psychique et sur le plan spirituel. Par exemple, un homme peut avoir un karma physique difficile, être tout tordu, et avoir un bon karma psychique et spirituel. Il peut avoir une nature heureuse et des qualités morales indéniables, ou totalement l'inverse. Donc c'est pour dire que karma agit indépendamment vraiment sur tous les plans. Et il n'y a que la source, en fait, cette source éternelle de toute conscience, qui elle n'est pas en évolution et n'est donc pas soumise à la loi du karma. Alors, saint Paul disait « ce que l'homme sème, il le récolte ». Eh bien, c'est une autre façon de voir les choses. On sème une action et on va récolter des effets. Et, or, ces effets, eh bien, ils ne vont pas être... Quand on récolte quelque chose, on ne le récolte pas n'importe quand. Il faut du temps avant de récolter quoi que ce soit. Il faut que tous les éléments soient réunis, il faut que les conditions soient bonnes. Eh bien, c'est pareil pour le karma. Il ne va pas être récolté tout de suite, il va falloir du temps. Il va falloir que toutes les conditions soient réunies. Ce qui nous amène à dire qu'il y a trois types de karma. Alors, il y a le karma qu'on est en train de récolter maintenant dans cette vie, parce qu'en fait, il est mûr pour être récolté, toutes les conditions ont été réunies. Il y a, deuxièmement, il y a le karma qui n'a pas encore les bonnes conditions pour être récolté, donc il va falloir attendre pour le récolter. Par exemple, si en tant qu'homme, on a fait du mal à une femme, eh bien, peut-être qu'il va falloir attendre d'être réincarné dans un corps de femme pour que ce karma puisse s'exercer. Donc, on voit que de temps en temps, il faut attendre longtemps avant que ce karma s'exerce. Et c'est ce qu'on appelle le karma en suspens, le karma en réserve pour une autre incarnation. Et troisièmement, eh bien, il y a le karma que nous sommes en train de créer actuellement, que nous semons là dans cette vie pour des incarnations futures. Alors, on commence à voir que la loi de karma, sous des apparences très simples, eh bien, est en fait extrêmement complexe dans ses prolongements. Madame Blavatsky disait d'ailleurs que c'est le plus difficile des enseignements. Alors, l'ignorant va peut-être en tirer des conclusions très rapidement, mais en fait, seul un maître de sagesse, eh bien, pourrait expliquer réellement la genèse des événements. Et en effet, toute action, eh bien, est une cause qui va, d'où va découler mais d'innombrables ramifications d'effets qui vont agir sur soi-même, sur les autres, et ça dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est d'une richesse incroyable. C'est un mouvement incessant, ce sont des combinaisons de causes qui vont agir dans tous les domaines. Et ainsi, nous interagissons sans cesse les uns sur les autres. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes tous interdépendants. Et nous sommes évidemment liés aussi par la loi d'unité et la loi de solidarité. Donc, aucun homme ne fait une action sans influencer, aussi peu soit-il, tout le reste des autres hommes. En fait, nous semons et nous récoltons ensemble. Nous bâtissons notre monde ensemble. Et toute action est en fait toujours interaction. Et le karma n'est jamais strictement individuel. Il est toujours fondu dans le karma familial, puis dans le karma national. Et c'est un karma collectif pour toute la famille humaine. Alors, on a vu que toute action procédait du mental. Mais à la base de toute action, il y a le désir. C'est toujours un désir qui va provoquer l'action. Donc, on pourrait presque dire que l'action est déjà l'effet du désir. La véritable cause, c'est le désir. Et si on décide de ne plus agir, eh bien, est-ce qu'on va ne plus rien désirer d'un coup? Est-ce qu'on va ne plus créer de karma? Nous n'allons plus semer, donc nous n'allons plus récolter, mais est-ce que ça va être possible? Alors, la vie elle-même nous pousse à l'action. Et ce n'est pas un hasard si nous nous incarnons au milieu de la société. Et donc, nous vivons en société et nous y sommes à notre place. Et puis, face à un événement qui va arriver, eh bien, ne rien faire, ça peut être lourd de conséquences. Et donc, en termes d'effets, ça va être exactement comme si nous avions agi. Bon, les effets vont être différents, bien entendu, que si nous avions agi, mais les effets vont être là. Par exemple, si il y a un homme en détresse quelque part, et nous, on a choisi de ne pas agir, eh bien, bon, c'était peut-être le karma de cet homme de souffrir, mais notre karma à nous, est-ce que ce n'était pas d'essayer de l'aider? Bien, pour la théosophie, la question ne se pose même pas. Et nous devons bien sûr aider. Et si vraiment nous voulons ne plus créer de karma, eh bien, la solution, ce n'est pas de ne plus faire d'action. Il faut faire ce qu'on a à faire. La solution, c'est le non-attachement. C'est essayer de ne pas s'attacher au résultat de l'action. Mais l'important, c'est déjà de bien comprendre qu'avec la loi de karma, il n'y a pas un barème pour chaque action. Deux actions sur deux êtres différents peuvent avoir des effets totalement différents parce qu'il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte, il n'y a pas un barème pour chaque action. Et il faut bien comprendre aussi que la loi de karma, eh bien, n'est jamais dans une optique de jugement. On va prendre l'exemple d'un homme qui a trop mangé. Bon, il va être malade et il ne va pas se dire qu'il est puni parce qu'il a trop mangé. En fait, c'est uniquement sa responsabilité. Et c'est le corps qui va essayer de rétablir l'équilibre de ce trop-plein de nourriture. Il va peut-être se débarrasser du trop-plein, et puis l'homme va souffrir, parce que être malade, ça fait souffrir. Mais il peut peut-être en tirer la leçon, et bien que la prochaine fois, il ne faudra pas trop manger pour ne pas être malade. Et bien la loi de karma, elle agit tout aussi naturellement. Et c'est l'homme, lui, dans son mental, qui va dire « je suis puni » ou « je suis récompensé ». Mais la loi de karma, elle ne fait que rétablir l'équilibre qui a été perturbé. C'est tout. Et en fait, qui est-ce qui se punit? C'est l'homme lui-même qui se punit ou qui se récompense. Mais par contre, eh bien, on peut choisir quand même la façon dont on va réagir face à un événement, heureux ou malheureux d'ailleurs. Là, on a le choix. Et on peut soit se révolter, soit s'énerver et refuser. On peut imaginer qu'on est puni et puis subir sans chercher à comprendre. Et puis, on peut se dire que dans chaque événement, heureux ou malheureux, il y a une leçon à tirer, en fait. Et que et la loi de karma, d'ailleurs, nous enseigne en fait constamment la bonne voie à suivre, et cela pour arriver à des expressions de plus en plus parfaites. Mais notons au passage que chaque leçon qu'on aura pu comprendre et chaque progrès spirituel qu'on aura pu faire ne sera pas perdu en fait à la mort physique. Parce que nous allons retrouver à la prochaine incarnation le travail où nous l'avions laissé à l'incarnation précédente. On peut peut-être reprendre la comparaison avec l'acteur. L'acteur, quand il joue un nouveau rôle, il n'est pas débutant à chaque nouveau rôle. Au contraire, il a l'expérience et il s'améliore. Eh bien, le pèlerin éternel, c'est pareil. À chaque nouvelle incarnation, il ne repart pas de zéro. Il a tout son acquis spirituel et il s'améliore au fil des incarnations. Maintenant, lorsque karma a vraiment une leçon à nous faire apprendre, il y a des événements que l'on doit vivre, les causes sont mûres et l'événement doit être vécu. Par exemple, un accident. Il arrive que nous prenions des décisions très surprenantes qui ne nous ressemblent pas du tout et ces décisions vont provoquer l'accident. Et après coup, on va se dire, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pas du tout dans mes habitudes, ça ne me ressemble pas et j'aurais pu éviter cela très facilement. C'était karmiquement, il fallait vivre cet accident, cet événement, c'était karmiquement indispensable. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose de l'intérieur qui nous poussait à nous mettre dans certaines situations, qui nous mettait à l'épreuve en quelque sorte. Et lorsque plus rien ne peut venir contrecarrer les causes qui ont été semées, l'événement se produit inexorablement. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui permet aux véritables voyants de connaître des événements à l'avance. Alors, quand un événement concerne un groupe d'hommes, comme un accident d'avion ou comme un tremblement de terre, par exemple, les personnes qui ne doivent pas être, qui ne doivent pas vivre cet événement karmiquement, ils sont naturellement éloignés de cet événement. Et on entendra une personne dire, s'il n'y avait pas eu tout ce concours de circonstances qui m'a fait rater mon avion, j'aurais été dedans. Quelle chance j'ai eue, c'est inouï. Mais en fait, c'est karma. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que la loi de karma, c'est une loi de justice. Et c'est une loi de justice grâce aussi à la loi des cycles qui lui est intimement liée. Tout est cyclique dans la nature. Et un des cycles pour l'homme, c'est la réincarnation. Et sans la réincarnation, karma ne pourrait pas faire vivre à l'âme profonde que nous sommes, à travers différents corps et à travers différentes personnalités, toute la somme d'expériences dont on a besoin. Sans la réincarnation, un être vivrait dans un corps d'enfant quelques années, une vie épouvantable, sans amour, et finirait par mourir sous les coups de ses parents. Et un autre vivrait une longue vie heureuse et pleine d'expériences, très riche en expériences. Ce serait d'une injustice incroyable. Alors que grâce à la réincarnation, karma permet à chacun non seulement de rétablir l'équilibre qu'il a lui-même rompu par ses actions égoïstes, mais il va lui permettre aussi de vivre toute la somme d'expériences nécessaires à son évolution au fil de ses incarnations. Alors, il ne faut donc pas voir les choses par rapport à la vie de l'homme, mais par rapport à la vie de l'âme. Et il faut savoir aussi que la réincarnation, eh bien, c'est le premier résultat de l'action karmique. Pourquoi est-ce qu'on se réincarne? Pourquoi est-ce qu'on revient à la vie? Eh bien, parce qu'on a encore du karma en suspens. Le corps meurt, la personnalité meurt, mais les actions qu'on a semées, elles ne meurent pas. Et il va falloir vivre leurs effets dans des futures incarnations. Donc, l'homme que nous sommes aujourd'hui, il est la somme de toutes ses vies passées. Nous subissons aujourd'hui le karma que nous avons semé dans des vies antérieures, parce que ce karma est arrivé à maturité, parce que toutes les bonnes conditions sont réunies pour qu'il s'exerce. Et nous semons aussi dans cette vie le karma que nous vivrons dans des incarnations futures. Donc, eh bien, on voit qu'on a toutes les cartes en main. On peut continuer à semer des actions égoïstes qui nous feront immanquablement souffrir, ou on peut essayer de commencer à se changer et pour aller dans le sens des lois de la nature, pour aller dans le sens de l'unité et de la solidarité. Alors, il y a un adage qui dit « Qui sème une pensée récolte un acte. Qui sème un acte récolte une habitude. Qui sème une habitude récolte un caractère. Et qui sème un caractère récolte une destinée. » Eh bien, pour que notre destinée aille dans le sens de la solidarité, il va falloir essayer à chaque instant, à chaque pensée, à chaque acte, d'universaliser les choses au lieu de toujours tout ramener à notre petite personne. Et sachant que karma, en nous aidant à nous remettre en question, eh bien, nous aide dans cette voie. Alors, bien sûr, la souffrance que nous nous infligeons à travers karma est, de temps en temps, est vraiment trop forte pour qu'on puisse en tirer une leçon. Donc, ou du moins pas tout de suite. Il va falloir du temps. On risque d'être très déprimé pendant longtemps. Mais si on arrive à se poser les questions, eh bien, sachons qu'on peut trouver les réponses à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que toute cette lumière, toute cette connaissance, tous les grands idéaux, ils existent fondamentalement dans notre vraie nature. Alors, eh bien, si on trouve des réponses à l'intérieur de nous-mêmes, c'est là qu'on va vouloir commencer à changer. Mais ce n'est pas facile de changer, parce que, eh bien, justement, on a des tendances, et ces tendances, elles sont très difficiles à partir. Alors, l'idéal, eh bien, ce serait de créer de nouvelles bonnes tendances pour oublier les anciennes, en fait. Et faire que de notre destinée, eh bien, quelque chose de plus lumineux. Mais notons au passage que de revenir sur le repentir d'une faute passée, eh bien, déjà, ça ne sert à rien parce qu'une fois que l'action est faite, on ne peut pas revenir en arrière. Et en plus, ça mobilise le mental sur cette faute. Et ça, c'est à éviter. Parce que lorsque le mental se détache d'un objet, lorsqu'il perd tout intérêt pour un objet, eh bien, il n'existe plus de lien entre le karma de cet objet et l'individu. Donc, le non-attachement, eh bien, libère de ce karma, réellement. Pour expliquer un peu les choses et voir que karma n'est pas figé, on peut prendre l'exemple d'un homme qui tourne son mental uniquement vers l'assouvissement de ses désirs inférieurs. Eh bien, ça va créer un centre d'attraction et toutes les énergies, même supérieures, vont se tourner vers l'inférieur. Et il va en résulter que son karma, eh bien, va se concentrer sur le plan physique. Et au contraire, si un homme se tourne vers un idéal élevé, eh bien, son karma passé n'aura n'aura plus de base pour prendre prise sur le plan physique. Et ce karma sera transmué sur un autre plan. En fait, le karma se manifeste toujours sur le plan en harmonie avec le plan du désir. Donc, on voit que pour une même cause, les effets pourront être totalement différents selon les désirs matériels ou spirituels de l'être. Et pour continuer sur le non-attachement, lorsqu'on a un karma plaisant, une vie matérielle agréable, c'est très bien, mais il faut quand même faire attention parce que ça peut être un piège, justement parce qu'on s'attache à une vie facile. Et alors, il va falloir resituer un peu les choses dans un plan plus large, dans un contexte plus large, en se disant que douleur et plaisir, eh bien, ça fait partie de la vie, bien entendu, mais que ce sont des sensations passagères et que la vie est au-delà du plaisir et de la douleur. Et en fait, pour la plupart des gens, eh bien, une vie facile, matériellement facile, aisée, eh bien, ça correspond à du bon karma. Et une vie pleine d'épreuves et pleine de pauvreté, ça correspond à du mauvais karma. Or, un homme qui vit dans les épreuves et la pauvreté n'est pas forcément malheureux. D'ailleurs, quand on voit dans ces pays orientaux toute la misère qui y règne et qu'on voit la joie de vivre et la gentillesse des gens, on peut le comprendre. Et puis, un karma difficile peut aussi donner de la force d'âme et puis de la générosité. Et le contraire est vrai aussi. Quelqu'un qui a un karma facile et une vie matérielle aisée n'est pas forcément heureux. Et ça peut, en plus, ça peut lui donner des tendances égoïstes. Donc, son karma, il peut devenir même encore plus difficile que quelqu'un qui est dans la pauvreté. Et si on réfléchit bien, eh bien, toute circonstance karmique ne peut être que du bon karma. Parce que non seulement elle nous amène le juste retour du passé, mais en plus, elle nous apporte toujours les circonstances qui vont stimuler notre éveil. Karma, en fait, nous aide à nous éveiller. Et c'est quand même très important. Et d'autre part, dans certains cas, un karma difficile ne veut pas dire forcément qu'il y a eu des actions mauvaises avant. Parce qu'il y a certaines personnes qui appellent ce karma par un vœu fait dans une incarnation précédente. Et cela pour acquérir de la force d'âme ou pour éliminer un défaut. Donc on voit qu'on n'est pas obligé de subir le karma, mais qu'on peut appeler le karma pour favoriser sciemment son éveil spirituel. Alors dans ces conditions, comment oser juger quelqu'un sur le karma qui vit, sur ce qu'il vit ? Mais aussi difficile que soit le karma d'un homme, eh bien, ce karma, heureusement, arrive toujours progressivement. La théosophie nous dit que si le karma d'un homme lui tombait dessus d'un coup, eh bien, ce serait vraiment trop lourd et qu'il n'y survivrait pas. Et pour illustrer cela, il y a un conte oriental, c'est l'histoire d'un jeune prince qui avait fait une faute extrêmement grave qui méritait la mort dans son royaume. Et le châtiment dans ce royaume, eh bien, c'était de recevoir une énorme pierre qui allait l'écraser. Mais le roi, en réfléchissant, se dit que ça ne réparerait pas la faute et puis que ça n'aiderait pas le prince à s'améliorer. Donc, il a ordonné de faire briser cette énorme pierre et que le prince en reçoive tous les morceaux, mais sans que cela ne le tue, et par contre pour qu'il en souffre pendant longtemps. Donc, ce conte est pour illustrer pourquoi on ne reçoit pas notre karma d'un seul coup sur nous. Et il faut savoir aussi qu'on n'est pas égaux non plus devant le karma. pour un karma égal, un être trouvera ça insupportable, un karma vraiment très lourd, et l'autre le supportera allègrement. En fait, ça dépend de leur degré d'éveil. Et donc, dans chaque vie, eh bien, nous créons le karma qui va nous arriver dans la suivante. Avec cette pause post-mortem qui va permettre à l'âme profonde d'assimiler toutes les tendances spirituelles avant de se réincarner. Et quand nous allons nous réincarner, eh bien, nous serons semblables et différents en même temps. Nous serons différents parce que, eh bien, déjà, nous aurons ce plus qui se sera assimilé à notre âme profonde. Nous serons dans une nouvelle famille. Nous allons peut-être avoir un autre sexe. Nous allons peut-être être dans un autre peuple. Nous allons nous former une nouvelle personnalité. Et nous serons semblables quand même parce qu'il y aura toutes nos anciennes tendances dont on ne s'est pas débarrassé, et bien qui vont venir nous recoller à la peau. Mais nous ne nous réincarnerons pas n'importe où. Si nous nous réincarnons dans telle ou telle famille ou dans tel ou tel peuple, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a une affinité de nos tendances avec cette famille. Et cette affinité, eh bien, va attirer irrésistiblement, magnétiquement, vers cette famille, l'être qui est prêt à se réincarner. En plus des liens karmiques qui lient certainement aux membres de la famille. Et ce peuple, cette famille, quoi qu'on en pense, vont être les plus adaptés à notre évolution. Alors, on a beaucoup parlé de la responsabilité de l'homme face à ses actes. Il est le créateur de son karma, on l'a compris. Mais l'homme porte aussi la responsabilité de ce qu'il fait subir aux animaux, aux végétaux, aux minéraux et même aux élémentaux. Et en effet, comment est-ce qu'on pourrait supposer un seul instant que tous ces règnes ne sont pas affectés par notre conduite ? Par exemple, au moment de la chasse, il se tue une quantité énorme d'animaux. Et cela ne créerait aucun effet karmique ? Bien sûr que si. Alors, la théosophie enseigne que la conscience existe même dans le plus petit atome. Donc, l'homme, eh bien, influence aussi jusqu'à la moindre cellule de son propre corps. Son corps qui est en fait comme un petit univers, c'est le microcosme dont il est le guide. Et l'homme va marquer son empreinte aussi sur le macrocosme qui l'entoure. Le karma d'un peuple est directement lié aux âmes qui l'ont composé ou qui le composent. Et le karma d'un univers, eh bien, il dépend de la somme totale de ce que tous les êtres de toutes les planètes qui peuplent cet univers, eh bien, ont eu comme effet sur cet univers. Donc, on voit que tout dépend de notre attitude. Et quand on voit toute cette interdépendance, eh bien, ça nous donne une sérieuse raison de mettre en pratique la solidarité et la fraternité universelle. Parce que en agissant dans le sens de la séparation, l'homme non seulement ne va pas dans le sens de l'évolution, mais en plus, il mobilise contre lui des forces de la nature qui ont été perturbées par son action. Pour expliquer ça, on va parler un peu de la lumière astrale. La lumière astrale, c'est une substance qui est proche de notre plan, mais qui est invisible à nos yeux. La lumière astrale garde en mémoire toutes nos pensées et toutes nos actions. On peut dire que cette mémoire, eh bien, c'est une mémoire en quelque sorte active. Et elle est active par le biais de ce qu'on appelle les élémentaux, qui sont des forces de la nature qui sont très liées au mental humain. Et ces élémentaux sont en fait comme des miroirs qui vont refléter toutes les idées et toutes les pensées toutes les images que crée notre propre mental. Et quand elles vont renvoyer ces images, eh bien elles vont donner de la force aux tendances qui sont derrière. Elles vont comme restimuler ces tendances. Donc, eh bien, tout ça, ce sont des mécanismes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est comment fonctionne la loi de karma en général. Alors, n'oublions pas que l'homme a la liberté de faire tout ce qu'il veut, mais que rien n'est gratuit. Et n'oublions pas que la loi de karma ne nous permet pas seulement de récolter ce que nous avons semé, mais que c'est aussi une vraie source de confiance. C'est notre guide le plus sûr. En fait, karma va nous permettre d'apprendre quelque chose et va nous permettre de conserver le fruit de tout ce qu'on a appris. Karma va nous permettre aussi de nous libérer peu à peu des liens karmiques que nous avons nous-mêmes tissés. Et si on veut bien œuvrer dans ce sens, eh bien, on finira par réaliser pleinement notre nature divine. Et puis, à ce moment-là, on apportera notre contribution à ce qu'il y ait plus de lumière dans cet univers, à ce qu'il y ait plus de connaissances, plus d'harmonie, plus de fraternité aussi dans notre monde. Et que nous nous en apercevions ou pas, en fait, nous formons tous une seule et même conscience. Nous formons tous une seule et même âme en évolution. Donc, eh bien, faisons une confiance totale à karma, parce que karma nous conduit vers notre destinée divine.